Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Pascal Massirika.
À la une de l'actualité, début ce mardi à Kinshasa du forum des parties prenantes au processus électoral en RDC. En trois jours, en effet, les délégués des partis politiques, de la CENI, de la société civile, de la magistrature et du gouvernement vont harmoniser autour d'une même table les vues sur les élections apaisées en décembre prochain. Arrestation hier au pont Kwango de 20 miliciens Mombondo dans le territoire de Kenge après des affrontements avec les FARDC selon le vice-président de la société civile locale. Symphorien Kwango affirme qu'un déplacement massif de la population est observé. Notre invitée, c'est Madame Adine Omokoko, membre de la plénière de la CENI. Elle parle de la concertation organisée au Maniema entre les parties prenantes sur les procédures à suivre lors de la réception et le traitement des candidatures pour la députation nationale. Madame, messieurs, bonsoir. D'abord, ces deux nouvelles qui viennent de nous parvenir. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Hichilema de la Zambie et Lourenço de l'Angola ont signé ce mardi à Lobito un accord pour renforcer les exportations des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito, d'après le président de la République. Les trois chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers et qui aboutit à coup sûr au port de Lobito à la société Lobito Atlantic Railway, chargée du transport des minerais de la RDC et de la Zambie vers les marchés d'exportation. Selon le président congolais, l'opérationnalisation de ces corridors de Lobito permettra ainsi le désenclavement des mines de la RDC et de la Zambie, ainsi que l'accès à la circulation d'intrants indispensables à l'industrie minière et agricole. Et puis, la Cour constitutionnelle vient de réhabiliter ici à Kinshasa ce mardi Julie Ngungwa de ses fonctions de gouverneur de la province du Tanganyika. Cette juridiction a donc déclaré inconstitutionnelle la motion de défiance votée le 8 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Coup d'envoi ce mardi à Kinshasa du forum des parties prenantes du processus électoral en RDC. Les délégués des partis politiques, de la CENI, de la société civile, de la magistrature et du gouvernement central discutent autour de même table pendant trois jours pour harmoniser les vues autour de la tenue des élections apaisées en décembre prochain, organisées par plusieurs partenaires dont National Democratic Institute, le PNUD et Open Society Foundation. Ce forum de Kinshasa aborde notamment des sujets autour de l'enregistrement des électeurs, la transparence, la sécurité du processus électoral, mais aussi l'engagement des partis politiques. Des précisions avec le directeur d'Open Society Foundation, Nick Elebe, au micro de Michel Kifinangoy.
De par les conversations que nous avons avec nos partenaires, il a paru évident qu'il y a une nécessité pour que les parties prenantes se retrouvent et discutent des conditions optimales pour un processus électoral apaisé, inclusif et un processus électoral qui permette donc à tout le monde de faire entendre sa voix. Cela ne peut se faire que à travers la création de passerelles, la création d'événements, de moments qui permettent à ces dernières de se retrouver, de discuter, de faire entendre leur voix, de poser leurs questions et finalement d'aboutir à une compréhension commune la plus proche possible pour permettre finalement à ce que les élections s'organisent dans de bonnes conditions. Il n'arrive à 6 mois certes, mais à 6 mois d'un processus qui est déjà lancé, d'un processus qui est déjà engagé, et nous croyons que à tout moment pendant les élections et même après, il est important quand même que les acteurs puissent s'asseoir et discuter. Le dialogue est quelque chose qui est nécessaire en permanence.
Dans le Haut-Katanga, le commandant de la police nationale s'engage à lutter contre la criminalité, engagement annoncé lors de la parade qu'il a présidée hier lundi au camp de la commune de Kampemba. Il a également rappelé aux leaders politiques la nécessité qu'il y a de sensibiliser leurs membres à éviter de porter la tenue semblable à celle des forces de l'ordre et de la défense. À Lubumbashi, la correspondance de Jean Ganduka Bongo.
Le commissaire provincial de la police a d'entrée de jeu déploré le nouveau mode opératoire des bandits qui recourent aux armes blanches, dont les machettes, pour s'en prendre aux paisibles citoyens. Ils volent, agressent et par moments tuent sans qu'ils ne soient rattrapés. Pour Lunga Katumba Norbert, cet activisme qui met à mal la vie des habitants du Haut-Katanga doit cesser. Pour cela, il a demandé l'implication de tous les commandants des différentes unités de tout faire pour éradiquer ce phénomène. Par la même occasion, il a ordonné que tous les policiers qui font la garde auprès des anciennes autorités, dont les ministres provinciaux, les députés, le maire, les bourgmestres et autres, à retourner sans tarder dans leurs unités. Le même appel a été lancé à tous les policiers qui sont en détachement chez des tiers et même à ceux qui sont dans les sites miniers. Une sévère mise en garde a été faite à tous ceux qui bénéficient de la garde des policiers et qui les transforment en garçons des courses. À l'approche des élections, la police a besoin de tous ces éléments pour sécuriser le processus électoral ainsi que la population, a-t-il martelé. Il a fini par rappeler à tous les policiers qui sont apolitiques et aux politiciens de s'abstenir de détourner les policiers de leur mission. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et dans le Kwango, 50 miliciens Mombondo ont été arrêtés lundi après-midi au village du pont Kwango dans le territoire de Kenge. C'est après des affrontements avec les FARDC, selon le vice-président de la société civile locale. Symphorien Kwango affirme qu'un déplacement massif de la population est observé. Il rassure cependant que pour l'instant, le calme est revenu. Il a été joint par Irène Boma.
Hier, il y a eu des échauffourées entre les éléments de la milice Mobondo et les FARDC. Les deux étaient partis de l'ultimatum qui avait été lancé par la milice Mobondo, qui promettait d'attaquer après la passation des examens d'État. Ils avaient promis une expédition punitive pour faire les affrontements avec les FARDC. Ayant appris cela, les FARDC avaient pris déjà des dispositions. Il y a les renforts qui sont venus de Kinshasa, de Kenge, pour pouvoir renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens au pont Kwang. Maintenant, quand les éléments des FARDC sont arrivés, quelques jeunes considérés comme Mobondo ont été appréhendés par les FARDC déployés. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des affrontements. Mais au bout du compte, les éléments des FARDC ont neutralisé plus de 50 Mobondo. Ça signifie qu'ils ont arrêté 50 Mobondo. Ils sont présentement à Kenge. Et maintenant, la situation est calme. Mais comme vous pouvez le deviner, la population prit de panique. Chacun a pris son sens pour aller ailleurs.
En Ituri, pendant ces temps, les chefs coutumiers de Mambisa, dans le territoire de Djougou, dénoncent la présence des miliciens Zaïre dans 10 groupements. Dénonciation faite hier lundi lors d'une réunion tenue à Bounia avec le gouverneur. Dans leur déclaration, ils exhortent ces miliciens à déposer au plus vite les armes et à adhérer au processus de paix signé à Arou. On écoute l'un d'eux dans ses propos recueillis par Martial Kizabiamungu.
Nous avons pris la décision de rencontrer le gouverneur pour lui demander pardon à cause de ce que les jeunes font comme atrocité. Le message est que tous les jeunes doivent suivre le processus de désarmement, car sans cela, il sera difficile de retrouver la paix. Nous félicitons tous les jeunes qui ont décidé de rejoindre le processus. Il n'est pas trop tard pour les autres, notamment Zaïre, de s'approcher au processus pour que la paix revienne dans les villages parce que nous sommes fatigués des atrocités. La sécurité doit revenir pour que le gouvernement fasse son travail. Nous demandons aux tireurs de ficelles de cesser avec les mauvaises habitudes et de pousser les jeunes vers les processus de paix en cours à Ituri.
Partons maintenant pour la province du Nord Kivu où des habitants de plusieurs quartiers de la cité frontalière de Lubria fouillent actuellement les eaux de pluie qui proviennent des collines de Kasindi et qui menacent dangereusement cette entité. Ils sont obligés de s'installer ailleurs. La société civile locale plaide pour l'entretien urgent des canalisations des eaux dans les quartiers qui sont menacés. Reportage à Beni de Marc Marofimo.
Ce sont les cellules des quartiers Mwangaza et Kongoyasika qui sont menacées par les eaux de pluie qui proviennent des collines de Kasindi. Ici, on dénombre une centaine de maisons écroulées, d'autres abandonnées sans toiture et des parcelles envahies par des eaux de pluie. Les habitants de ces quartiers se déplacent certains vers Kasindi, d'autres vers l'Ouganda voisin. Pour la société civile, la solution à cette menace naturelle reste l'entretien des canalisations des eaux de pluie à partir des collines de Kasindi jusqu'à la rivière Lubiria. Serge Kalenga, président de la société civile à Kasindi-Lubiria.
La seule solution serait d'abord de retracer encore les canaux collecteurs des eaux et essayer de voir aussi à la source, là où proviennent ces eaux, pour essayer de bien entretenir ces canaux, afin que ces eaux puissent aller se jeter tout droit dans la rivière Loubiré. Parce que depuis la catastrophe naturelle qu'a connu le groupement Basongor à la cité de Kassoun d'ici récemment, il n'y a jamais eu des entretiens. Parce que pendant la période pluvieuse ici, c'est vraiment un grand danger pour la population locale.
Pour rappel, c'est l'année dernière que les eaux de pluie qui provenaient des collines de Kassindi avaient détruit des centaines de maisons de Kassindi-Loubiria et ses environs. La société civile locale encourage par ailleurs la population aux travaux communautaires afin de déboucher les passages des canalisations des eaux de pluie dans leur quartier. Beni Marc Maroufimbo, Radio Kapi.
Et puis, des perditions scolaires cette année dans les écoles publiques du Congo central. C'est le cas notamment de l'école primaire d'application Biwewe. À la fin de l'année scolaire dimanche dernier, le chef d'établissement a révélé que sur 599 élèves qui ont commencé le cours à la rentrée, 549 ont terminé l'année scolaire, soit une déperdition de 9% suite au changement d'adresse des parents. Pierre Nkoukila s'est confié à Nana Pleurich Mambou.
Il y a eu 91% de réussite et les filles ont fait 59% de réussite par rapport aux hommes qui n'ont fait que 41%. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République qui a introduit la gratuité à l'école. Cela nous a permis à ce que la déperdition des élèves soit réduite. Nous avions au départ 599 élèves et nous avons terminé l'année avec 549 élèves et 72 élèves qui ont abandonné. Une déperdition de plus ou moins 9%. Et cette déperdition a été dit surtout les déplacements, les changements d'adresse de parents. Les difficultés rencontrées, c'est surtout les infrastructures. L'école fait fonctionner 16 classes, mais nous ne disposons que 8 salles. Et le directeur travaille vraiment comme un robot. Il est là de 7h30 jusqu'à 17h30 pour encadrer les deux vacations. Et vu la gratuité, les effectifs ne font que s'augmenter dans des salles de classe. Si le gouvernement pourrait songer à nous doter d'un bâtiment encore de 8 salles des classes, ça sera une bonne chose. Les manuels scolaires que nous avons, ce sont des manuels qui ont daté de plus de 10 ans. Ils sont presque tout délabrés.
Faisons un détour par le Sud Kivu où l'administrateur du territoire d'Uvira, Selemani Mabiswa et le maire de la ville, Kiza Muhato, ont réceptionné hier lundi chacun un véhicule 4x4 tout terrain, dont de la MONUSCO. C'était à la mairie d'Uvira en présence des chefs de quartier. Cette donation de la MONUSCO s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat en vue du renforcement des capacités des autorités et l'appui aux institutions étatiques. Radio Kapi Uvira, Fiston Goma Mayabala.
Ces moyens de mobilité permettra aux autorités politico-administratives de circuler sur l'ensemble du territoire. L'administrateur du territoire d'Uvira, Mabiswa Selemani, a reçu la clé de sa Jeep Prado de maître du chef du sous-bureau de la MONUSCO Uvira. Il est visiblement plein d'émotions lui-même au volant.
Ce véhicule va beaucoup plus nous aider et nous serons beaucoup plus actifs, surtout quand nous sommes en itinérance. Nul n'ignore que le territoire d'Uvira a une superficie de 2140 km et nous avons une grande partie dans les hauts et les moyens plateaux qui nécessitent beaucoup plus la présence des autorités politico-administratives que nous sommes pour nous rendre compte de la situation sécuritaire dans nos groupements, dans nos chefferies, dans nos villages. Et cela, nous devons quand même avoir un moyen de transport qui nous rassure d'atteindre tous ces villages-là.
Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Muhato, de son côté, a réceptionné une Jeep Nissan Patrol. Tous ces véhicules que la MONUSCO a cédés peuvent encore servir pendant plusieurs années. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO, Uvira Kassim Ibamba, a salué la franche collaboration de ces deux autorités civiles locales avec la mission onusienne. D'Ovira Fiston Gomamayabala, Radio Kapi.
Place à l'économie. Au Sud Kivu, une tonne et demie d'or par mois échappe au circuit officiel d'exportation à cause notamment de la fraude. En vue d'inverser la tendance, des fournisseurs d'or ont rencontré hier lundi à Bukavu la délégation du conseil d'administration des Primera Gold, une entreprise du portefeuille de l'État congolais dont l'activité principale porte sur l'exportation de l'or artisanal. À Bukavu, Cynthia Bachizina Bizana.
Ces fournisseurs d'or ont fait part de principales difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités et qui poussent certains de leurs collègues à se détourner du canal officiel. Maya Malengera, président des négociants du Sud Kivu.
Il faut qu'on offre un bon prix aux négociants. Si Primera achète à un prix moins cher par rapport à ce que les négociants donnent, ils auront tendance à ne pas venir et ça nous ramènerait encore dans l'ancien circuit. qui consistait à vendre dans les pays étrangers. Voilà, bref, pourquoi on a voulu à ce que Primera améliore son prix.
Vagheni Paipai, le président du conseil d'administration de Primera Gold, se veut pour sa part rassurant.
Bon, tout tourne toujours autour de la fraude. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des acteurs qui ne respectent pas les prix qui doivent s'appliquer réellement sur le marché.
Cela crée une certaine spéculation, c'est ça ?
Cela crée une spéculation, mais nous y travaillons et nous allons apporter des solutions.
De 51 kilos en 2022, le Sud Kivu a exporté plus d'une tonne d'or artisanal en 6 mois cette année. Mais les responsables de Primera Gold sont persuadés que la province est en mesure d'exporter un minimum d'une tonne par mois avec tous les gisements aurifères dont elle dispose. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, au lendemain du discours prononcé par le président Macky Sall qui annonçait qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle, beaucoup de questions restent en suspens. Personne n'a actuellement mis en avant par le camp présidentiel et la coalition au pouvoir devrait trouver un dauphin en moins de 8 mois. Pour beaucoup, le renoncement de Macky Sall à une nouvelle candidature au sommet de l'État est un soulagement. Une annonce de candidature laissée craindre des nouvelles tensions au pays. La Russie dénonce aujourd'hui un acte terroriste de Kiev après avoir neutralisé ce mardi 5 drones près de Moscou. L'attaque qui a visé les sites de la capitale a perturbé dangereusement le fonctionnement de l'aéroport international de Vukovu. Le ministre russe de la Défense nationale a affirmé que ces attaques ont été repoussées par la défense antiaérienne et tous les drones détectés ont été neutralisés.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Adine Omokoko, membre de la plénière de la CENI. Elle parle du cadre des concertations organisées au Maniema avec les parties prenantes sur les procédures à suivre lors de la réception et le traitement des candidatures pour la députation nationale. Elle s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Madame Adine Dor, bonjour.
Bonjour.
Après que la CENI ait ouvert le bureau de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale, aujourd'hui vous venez de réunir les parties prenantes au processus électoral. Pour quelles raisons ?
D'abord, il faudrait commencer à justifier ma présence dans la province de Maniema à Kindu. C'est juste pour palper du doigt des réalités du fonctionnement des opérations sur la réception et les traitements des candidatures. Et tout à l'heure, nous sortons d'une rencontre avec toutes les parties prenantes, confessions religieuses, organisations de la société civile, militants pour la tenue des élections, partis et regroupements politiques, les candidats indépendants. C'était pour arriver à les entretenir sur les étapes des opérations électorales pour arriver à la date du 20 décembre 2023. Pour dire que les élections auront bel et bien lieu et qu'il n'est pas question que les gens dorment sur leur laurier, nous avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures le 26 juin de cette année et ils vont fermer le 15 par rapport à notre calendrier. Contrairement au cycle précédent, nous n'avons pas assez de temps et il faudrait vraiment arriver à réveiller les parties prenantes concernées, dont les politiques, pour qu'ils puissent venir retirer les formulaires, les remplir en bonne et due forme et les déposer à temps pour permettre à ce que la CENI consolide une liste de candidatures qu'elle aura à publier dans les jours à venir.
Vous parlez des étapes. Quelles sont ces étapes ?
Nous avons eu à faire la cartographie électorale. Nous avons eu à faire l'enrôlement des électeurs et aujourd'hui nous faisons la réception et le traitement des candidatures et après demain nous aurons à publier les listes des candidats et le jour J nous aurons des élections. Donc si vous avez notre calendrier, vous verrez différentes étapes des opérations électorales que nous nous attelons à accomplir et c'est pourquoi nous nous déployons pour voir que nos agents sur terrain se comportent bien, agissent à toute responsabilité pour que nous arrivions à avoir des élections apaisées.
Et pourquoi vous avez tenu aussi à intégrer la société civile et autres partis à cette rencontre ?
Vous savez, dans l'organisation des élections, il n'y a pas que les candidats. Ces candidats doivent être élus par des électeurs. Et pour sensibiliser ces électeurs, les organisations de la société civile jouent un rôle très important pour leur sensibiliser, leur mobiliser à faire un choix politique, un choix électoral le jour du vote. Et donc, ils ont besoin d'être informés, avoir la vraie information, avoir le vrai chronogramme, avoir le vrai timing ou les vraies étapes, les étapes successives des opérations électorales pour qu'au jour des élections, que la population aille massivement voter le candidat de leur choix.
Vous nous parlez haut et fort, disant que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre.
Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre parce que nous avons publié un calendrier et nous assumons notre publication.
Mais Seni, vous dites toujours que vous n'avez pas encore de moyens jusque-là. Il y a des craintes du côté de la population. Qu'est-ce que vous dites?
Ce que je peux dire à la population congolaise en général et celle de Maniema en particulier. D'abord, la question des élections est une question de portée de souveraineté nationale. Et donc, lorsque le gouvernement congolais dit qu'il organisera les élections, mettra le moyen, nous, la CENI, nous ne pouvons qu'attendre. Et personne de la CENI n'a fait une déclaration pour dire que les élections seront reportées. Hein? Je pense que l'heure n'est pas aux supputations, l'heure n'est pas à la polémique, l'heure n'est pas à proliférer des informations qui ne tiennent pas. Évoluons step by step. Je vous ai retracé, en gros, ce que sont nos étapes et ce que nous avons déjà pu faire et ce que nous entrevoyons faire. Et donc, aussi longtemps que le gouvernement soutient les opérations, les élections vont se dérouler.
Les élections vont se dérouler. Madame, vous êtes membre de la plénière de la CENI. L'opposition n'est pas convaincue de ce que vous faites, raison pour laquelle l'opposition exige toujours un processus électoral inclusif. Comment allez-vous continuer?
En tout cas, avec l'opposition, si vous avez bien suivi, puisque vous êtes de la presse, pendant que nous sommes déployés en province, le président national de la CENI est en train d'avoir des séances de travail ou des échanges avec les leaders d'opposition. Et après ces échanges, il y aura quand même un canevas des idées qui vont sortir de là, qui seront rendues publiques par rapport à la CENI. Et ce sont des options qui devront être prises en plénière. Et donc, lorsque nous reviendrons à Kinshasa, vous serez informés de la suite. Mais pour l'instant, les positions comme la majorité sont des parties prenantes au processus et ils sont proches de la CENI, ils échangent avec la CENI.
Madame Adine Dor, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, Madame Adine Omokoko, membre de la plénière de la CENI, interrogée à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.